À la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Didier Fassin. Bonjour Didier Fassin.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Didier Fassin, vous êtes anthropologue, sociologue et médecin. Vous êtes aussi directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur à l'Institut des études avancées de Princeton. Vous êtes depuis un an titulaire de la chaire Santé publique du Collège de France. Et je me disais que la santé publique, c'était une question on ne peut plus d'actualité.
Bien, en effet, malheureusement, je dirais, je ne pouvais pas mieux tomber avec cette chaire qu'en période de pandémie de Covid, qui du reste a retardé d'un an, pour des raisons simplement techniques, la possibilité de donner les leçons que je devais présenter au Collège de France.
Didier Fassin, vous avez choisi comme journée particulière un jour de l'année 2002. Ce jour-là, vous étiez en train de mener une enquête dans le township d'Alexandra, au cœur de Johannesburg, en Afrique du Sud.
La plus ancienne township d'Afrique du Sud, Alexandra, du nom de la fille d'un fermier bourg du début du siècle. Alexandra la colère, traversée par toutes les déchirures de l'Afrique du Sud. Alexandra, l'amour de ses habitants. De génération en génération, malgré les expropriations et les déportations, ils ont lutté pour survivre ici. 350 000 Noirs sur 2,5 km. Seuls, des militants d'associations privées quadrillent le terrain pour tenter de leur offrir un cadre de vie plus décent.
Nous voulons des logements pour tous. Il nous faut des toilettes. Nous avons besoin de cliniques et de routes aussi.
Avec des moyens de fortune, Richard Mokwele essaie d'organiser la communauté. Andrise va dans l'une des 14 écoles primaires d'Alexandra.
Je veux être assistante sociale. Docteur. Policier. Avocat. Professeur. Joueur de cricket. Docteur.
Didier Fassin, c'était un extrait d'un reportage du magazine Géopolis, donc au cœur du township Alexandra. Quelle enquête faisiez-vous en 2002 dans ce township ?
Eh bien, c'était effectivement en avril 2002. Je conduisais une enquête avec des collègues sur la question du sida, qui était devenue, à partir du début des années 2000, une préoccupation majeure dans le pays, puisque l'Afrique du Sud était devenue le premier pays dans le monde par le nombre de cas de sida. Et donc, avril 2002, c'est le moment où je rencontre une jeune femme qui avait souhaité nous voir. Elle s'appelle Pouleng et c'est son vrai nom. C'est la seule fois où j'utilise dans mes travaux le nom réel d'une personne privée, parce que précisément, elle avait demandé à nous rencontrer pour, me semble-t-il, nous raconter très brièvement son histoire. Elle vivait dans une cave sans aucune lumière. Elle ne pouvait plus sortir de son lit. Elle pesait peut-être 35 kilos. Elle était au stade terminal de sa maladie. Et elle a cherché très explicitement à nous dire sa vie.
Alors elle vous l'a dit, elle vous l'a raconté ?
Alors elle l'a raconté et à sa demande, nous l'avons enregistré. Et je peux éventuellement lire ce que nous avons pu conserver de son témoignage. Mon nom est Pouleng, je suis né à l'hôpital Baragwanath en 1973. J'ai grandi à Soweto jusqu'à l'âge de 7 ans. Je suis alors venu à Alexandra, dans cette maison où nous sommes maintenant. Et c'est ici que j'ai toujours vécu. Quand j'étais enfant, mon père nous a quittés et ma mère a dû nous élever seule. Elle faisait de son mieux, mais elle buvait trop. Quand elle avait pris de l'alcool, nous nous retrouvions à dormir dans la rue. J'ai une sœur, elle est née en 1976. J'avais un frère aussi. Il était né en 1978, il était mon meilleur ami. Il est mort quand il avait 20 ans, il a été abattu par la police pour une affaire de vol de voiture. Et puis il y a eu cette maladie. Ils m'en ont parlé la première fois en 1998. Pourtant je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais eu le temps d'aller dans des hôtels ou des casinos. Dans toute ma vie, je n'ai eu que 4 boyfriends. Le premier, quand j'étais encore à l'école et il m'a laissé. Le second, c'est moi qui l'ai quitté. Le troisième était marié, alors je ne pouvais pas rester avec lui. Et le dernier, c'est le père de ma fille. Nous avons vécu ensemble 10 ans. Il était gentil avec moi, mais il m'a trompé. J'ai découvert un jour qu'il avait une autre amie et que cette amie était morte. Je lui ai dit « Mais comment as-tu pu me faire ça? Tu es en train de me tuer avec cette maladie. » Quand je lui ai parlé de mon test, il n'a d'abord pas voulu me croire. Et ensuite, il m'a menti en me disant que lui aussi avait fait un test, mais j'ai demandé au docteur qui nous soignait tous les deux et il m'a dit que ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, je ne veux plus avoir un autre boyfriend. Nous vivons ici heureuses, ma fille et moi. Elle a 12 ans maintenant, elle va à l'école et je veux qu'elle devienne quelqu'un. Alors vous voyez, c'est ça ma vie, une vie de misère. Nous avons tellement souffert. Et pourtant, j'avais du talent. J'aimais écrire des histoires quand j'étais enfant. La première fois, c'était après avoir lu un livre sur Florence Nightingale. J'aimais aussi écrire des poèmes. J'avais même obtenu une bourse pour aller étudier à l'étranger. Mais il y a eu un incendie dans ma maison et tous mes documents ont été brûlés. Alors je ne suis pas parti. J'aimais étudier. Je voulais devenir docteur parce que c'est beau de soigner les gens. J'étais vraiment doué. Maintenant, ma vie est en train de sombrer. Mais je suis très forte, très très forte. Et je vais vivre jusqu'à ce que Dieu décide de ma mort. J'aimerais encore faire tant de choses avant de mourir. J'ai dit à ma famille que le jour de mes funérailles, je ne veux pas qu'ils préparent un repas. Parce que les gens se comportent comme à une fête. Ils viennent surtout pour manger. Ça coûte beaucoup d'argent. Et à quoi ça sert puisque je serai morte? Ça ne fera que les endetter un peu plus. Non, je veux qu'ils m'enterrent. Mais ce n'est pas à ça que je pense tout le temps. À la mort. Et je remercie Dieu de m'avoir donné de vivre dans ce monde. Et puis, comme elle souhaitait... laisser un témoignage, je lui avais donné un cahier qu'elle a, dans les jours qui ont suivi, rempli et que j'ai pu reprendre après sa mort. Et elle racontait exactement la même histoire, presque avec les mêmes mots. Et ça, ce récit se terminait ainsi. C'est tout ce que je peux partager avec vous à propos de ma vie. Et il m'a semblé que cette histoire, d'une part, témoignait d'une extraordinaire confiance dans les chercheurs que nous étions, anthropologues, mais aussi d'une volonté de faire connaître au monde une expérience singulière qui, probablement, en disait beaucoup sur des phénomènes plus généraux qui se passaient à ce moment-là en Afrique du Sud. Elle a laissé une trace de sa vie qui avait été malheureuse, comme on l'a entendu. Et cette trace, elle voulait que nous la partagions avec le monde en quelque sorte.
C'est ce que vous venez de faire avec nous, Didier Fassin.
A South African song. It comes from the townships, reservations, locations near Johannesburg. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza, mama," which simply means, "Hurry up, mama, and hide. Don't let them catch you." Kauleza, mama, Kauleza.
êtes bien sur France Inter jusqu'à 15h et c'est la journée particulière de l'anthropologue Didier Fassin. En 2002, donc, alors que vous enquêtiez sur les expériences et les politiques du sida en Afrique du Sud, vous rencontriez cette jeune femme qui s'appelait Poulingue et que vous n'avez jamais oublié, Didier Fassin. La confiance qu'elle vous a témoignée en vous confiant le récit de sa vie et en l'écrivant dit quelque chose de la relation à l'ethnographe que vous êtes. Je vous propose d'écouter Jean Rouche donner une définition, sa définition de l'ethnographe.
Monsieur Rouche, nous n'allons pas avoir une conversation philosophique. Il serait peut-être bon quand même de définir les termes. Qu'est-ce que l'ethnographie et qu'est-ce que l'ethnologie?
Eh bien, l'ethnographe est un monsieur qui a un métier comme le mien, c'est-à-dire qui va chez des populations étrangères à sa culture, qui passe un certain temps et qui ramène des documents sur les manières d'être, de faire ou de penser de ces gens qu'il a observés. En principe, l'ethnographie a démarré avec le cinéma. Le 16 mm permettait à des gens de partir avec un matériel léger et surtout d'être seuls.
Didier Fassin, vous partez seul, quand vous rencontrez les gens seuls, quand vous enquêtez sur le terrain. Vous avez un magnétophone, vous avez une petite caméra. Comment vous travaillez?
Je noterai d'abord que, pour ce qu'a dit Jean Rouche, on voit bien que nous étions dans une autre époque où l'on pouvait dire que l'anthropologue était un monsieur. Aujourd'hui, il y a des messieurs et des madames qui sont des ethnographes et il y en a probablement autant des deux sexes. Alors, la manière dont je procède le plus souvent, et cette histoire de Poulingue était une exception à sa demande, puisque nous avons enregistré, le plus souvent, en effet, je suis seul et le travail que je fais n'est pas un travail d'entretien, c'est un travail de présence. Une présence sur le long terme. Et dans ce long terme, nous avons des conversations. Alors ces conversations peuvent être avec des personnes détenues dans le travail que j'ai fait sur la prison ou bien des surveillants. Ça peut être avec des policiers dans celui que j'ai réalisé sur les unités spéciales qu'on appelle des BAC dans la région parisienne. Ça peut être des personnes vivant dans des villages d'Équateur. C'était une autre recherche. Donc à chaque fois, il s'agit de conversations. Parfois, je prends des notes. Souvent, il n'est pas possible de le faire et il n'est pas souhaitable non plus parce que dans cette présence dans le long terme, eh bien ce qui est le plus important, c'est d'établir une relation non seulement de confiance, mais je dirais presque de normalité dans les échanges que nous pouvons avoir, de rendre ces conversations le plus anodines possible et de les inscrire dans le temps qui passe au milieu des mondes sociaux que l'on étudie.
Didier Fassin, quand vous avez rencontré cette jeune femme, Poulingue, son témoignage, la confiance qu'elle vous a témoignée aussi, vous a fait réfléchir à ce que signifiait l'expression « l'espérance de vie ». Vous avez cherché, en tant qu'anthropologue, à donner une autre signification à cette espérance de vie.
Alors c'est effectivement l'une des idées que j'ai essayé de développer dans la leçon inaugurale que j'ai donnée au Collège de France, qui a été reproduite sous la forme d'un livre qui s'appelle « De l'inégalité des vies ». Et tout en m'appuyant dans un premier temps sur la définition des démographes de l'espérance de vie, c'est-à-dire la durée de vie moyenne, et également les inégalités dans ces durées de vie moyennes en fonction du sexe, en fonction de la classe sociale, de l'appartenance ethno-raciale. J'ai essayé de prolonger cette réflexion en me disant, mais est-ce que la vie se limite au fond à cette dimension biologique, au fait d'être en vie et qui s'arrêterait au moment où l'on meurt? Et donc à la dimension biologique de la vie, qui bien sûr est importante pour chacun de nous, j'ai essayé d'ajouter une autre dimension qu'on peut appeler biographique, qu'on voit parfaitement dans le cas de Poulingue. Et du coup, si on prend sous cette forme-là, eh bien, on voit que l'espérance de vie devient autre chose. Ça devient quelque chose qui a à voir avec la qualité de cette vie, avec la dignité que l'on est capable de reconnaître à ces personnes.
Ou la promesse de la vie.
et la promesse effectivement de la vie. Et l'on voit bien dans le cas de Poulaigne, mais je dirais pour avoir établi ce rapprochement dans le dernier entretien de Jacques Derrida, on voit qu'il y a quelque chose qui est aussi de la vie au-delà de la mort, et la vie qui se prolonge dans le cas de Derrida par les ouvrages qu'il nous a laissés, dans le cas de Poulaigne, par le témoignage qu'elle nous a donné.
Didier Fassin, la vie et la question des vies, c'est le fil rouge de votre carrière, hein, commencé par la médecine et dérouté, c'est comme ça que vous dites, vers l'anthropologie. Vous en avez fait un livre que vous n'avez pas cité pour l'instant, qui est « La vie, mode d'emploi critique », et bien sûr on pense à « La vie, mode d'emploi » de Georges Perec. Mais vous, si toute l'œuvre de Perec est tentée par l'absence, vous, votre recherche, Didier Fassin, est entièrement traversée par la conscience des vies inégales. Comme vous l'avez dit, l'inégalité des vies, c'est le sujet que vous avez développé lors de votre leçon inaugurale en janvier dernier au Collège de France. Je vous propose d'en écouter un extrait de la fin de votre leçon.
On ne décide pas seulement les sujets sur lesquels on travaille ou qu'on souhaite exposer en fonction de critères intellectuels. Aux raisons scientifiques s'ajoutent souvent des raisons personnelles. Car nous sommes tous des héritiers. Nous héritons d'un monde social et d'un récit familial. La seule différence est peut-être entre ceux qui reconnaissent cet héritage et ceux qui l'oublient ou le nient. Menant une enquête à la frontière italienne, je me souviens qu'il y a juste un siècle, mon grand-père paternel la franchissait pour venir travailler en France. Et analysant les disparités d'espérance de vie, je me souviens qu'après plus de 5 décennies passées sur des chantiers de la région parisienne comme compagnon maçon, il venait enfin de prendre sa retraite, la plus belle année de son existence, aimait-il à dire, lorsque la maladie en a brutalement interrompu le cours. Aujourd'hui, la répression croissante à l'encontre des migrants qui précarise toujours plus leur état physique et psychique, et la réforme en cours des retraites qui ne prend pas en compte les près de 13 années d'écart de longévité moyenne entre riches et pauvres, actualise cette mémoire de l'inégalité des vies.
Didier Fassin, c'était donc un extrait de la fin de votre leçon inaugurale au Collège de France. Je vous avoue que quand je l'ai lu, j'ai été très émue, et je me disais que ça n'avait pas dû être facile de rendre hommage à votre grand-père en plein milieu de ce Collège de France, de cette institution. Et je me demandais si c'est ce grand-père d'origine italienne et votre enfance et votre jeunesse passée en banlieue qui ont participé à votre conscience aiguë des inégalités, et est-ce qu'on peut dire même une conscience de classe ?
Je pense que c'est le cas. Pour ce qui est de mon grand-père, je l'ai très peu connu. J'en ai un peu connu l'histoire. Pour ce qui est de mon expérience dans l'habitat social dans la région parisienne, c'est aussi une expérience à laquelle j'ai toujours essayé de rester en quelque sorte loyal, ou en tout cas de ne pas l'oublier, quels que soient ensuite les mondes dans lesquels j'ai pu évoluer en France, aux États-Unis. Et j'ai essayé, à la fin de cette leçon, de donner en quelque sorte un moment de vérité, c'est-à-dire en rappelant que celui qui parle n'est pas seulement celui qui pose un regard objectif sur le monde, il est aussi celui qui a une expérience subjective de ce monde. Et en quelque sorte, je ne voulais pas tricher sur ces histoires que je racontais et qui faisaient écho, de manière certes très différente, à ma propre histoire, et en particulier au franchissement de la frontière entre l'Italie et la France par les Alpes.
En 2002, Didier Fassin, l'année donc où vous rencontrez Poulaigne dans ce township d'Alexandra à Johannesburg, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, ordonnait la fermeture du centre de Sangat, pensant stopper l'afflux de migrants dans la région de Calais. Alors c'était une erreur, des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants ont continué à mettre en péril leur vie pour arriver jusqu'en Europe.
The case number given by the MN50 Rome is 963. I repeat, 963.
Can you hear me?
Okay, we don't have any other.
English, Français, Arabe?
Okay. I'm going to bring you to the big orange boat now, and the people are going to take care of you over there, okay?
C'était un extrait d'un reportage de Mathilde Dehimy sur le bateau Aquarius, Didier Fassin, un navire de sauvetage affrété par l'association SOS Méditerranée. Didier Fassin, il y a des vies dont on nie la qualité même, celle des migrants, par exemple, et vous avez travaillé aussi sur ces vies-là, ces vies et ces morts anonymes, ces morts dont on nie même la mort.
Alors c'est effectivement ce qui se joue aujourd'hui en Méditerranée. On peut rappeler qu'en depuis 2014, il y a eu 15 000 morts au moins, c'est-à-dire celles qu'on connaît, parce qu'il y a toutes celles qu'on ignore, qui se sont produites par la répression de plus en plus dure sur les passages entre la Libye généralement et l'Italie du Sud, et le développement d'une activité de passeurs qui devient de plus en plus enrichissante pour ceux qui la pratiquent. Et à cet égard, je trouve remarquable, dans l'exemple que vous avez fait entendre, cette évolution que nous avons connue, puisque lorsque les premiers, au milieu des années 2010, lorsque on a commencé à avoir ces naufrages terribles de centaines de personnes qui étaient noyés dans la Méditerranée, on a mis en place au niveau européen une politique de sauvetage. Des bateaux italiens ont été envoyés. Et puis un an plus tard, on a trouvé que c'était trop coûteux, peut-être que c'était facilitateur de ces mouvements, et donc on a arrêté. Et donc des bateaux comme ceux de SOS Méditerranée sont intervenus pour sauver des rescapés de ces noyades. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été ainsi sauvées. L'Union européenne a d'abord un peu laissé faire, et puis, quelques années plus tard, a commencé à réprimer à la fois en empêchant les bateaux de sortir, réprimer aussi en attaquant en justice les personnes qui étaient en charge de ces activités. Et donc, on a vu ainsi se développer une politique qui, au départ, était humanitaire au niveau européen et qui est devenue une répression de l'humanitaire, donc une inversion totale de la démarche. Et dans le travail que je conduis avec Anne-Claire de Fossé à la frontière entre l'Italie et la France, cette fois dans les Alpes, heureusement, le nombre de décès est beaucoup moins important, mais on voit comment ces vies sont mises en danger et comment le travail des maraudeurs, ceux qui essaient de sauver des gens par des températures qui sont extrêmement basses et dans des contextes d'enneigement très très forts, eh bien, ces maraudeurs se trouvent eux aussi soumis à une répression. Donc on a là un moment de tension très forte entre sauver des vies et réprimer ceux qui le font.
En tous les cas, c'est des vies qui n'ont pas beaucoup de valeur, puisqu'on ne connaît pas le nombre exact de personnes qui meurent en traversant l'Afrique, même avant d'arriver jusqu'à la mer, le nombre exact de personnes qui meurent aux frontières avant de les avoir traversées. Et là aussi, on pense évidemment à l'inégalité de ces vies-là. Et je pense que votre démarche, Didier Fassin, n'est pas que théorique, elle est politique. En travaillant sur ces sujets-là, vous voulez essayer de faire que notre édifice humaniste ne s'effondre pas. Est-ce que c'est vrai?
Alors c'est vrai qu'il est sérieusement ébranlé, je dirais, au niveau des politiques européennes, mais bien sûr également au sud des États-Unis et dans toute la région centra-américaine, mais également en Asie pour les Rohingyas ou dans d'autres régions du monde, y compris en Afrique. Et sauver ou ramener une forme d'humanisme, je n'oserais même pas aller jusqu'à là. Je dirais simplement que donner conscience de cette réalité et puis tout simplement donner une voix aux personnes qui ont réalisé ces voyages extrêmement longs. Il faut s'imaginer que la plupart de ces personnes, qu'elles quittent l'Afrique de l'Ouest ou qu'elles quittent le Moyen-Orient, l'Afghanistan surtout en ce moment, eh bien, c'est 3-4 ans de périple parfois avec femmes et enfants, et donc redonner une voix à ces personnes et redonner aussi une forme de dignité, c'est une chose que, je crois, notre travail peut permettre.
En 2002, l'année de votre rencontre avec Poulenc, donc l'année de votre journée particulière, Didier Fassin, Bachung sortait un nouvel album considéré comme l'un de ses meilleurs.
Dans ma cornue, j'y ai versé 6 gouttes de ciguë. Un peu d'espoir, ça a d'épaisseur. Et j'ai douillé. Du fond de ma boutique, monte un cantique. Un hymne à l'amour, orifère, ébullition, réaction. Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans ma cornue, j'y ai versé une pincée d'orgueil mal placée, un peu de gâchis, un souvenir de ton corps. Dans ma cornue, j'y ai coulé une poignée de rage. Dans ma cornue, j'y suis tombé. Quelle autre solution que de se dissoudre? Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans les faubourgs, je décante. Le soir, à la lune montante, au matin, je reprends connaissance. Ébullition, réaction.
Jusqu'à 15h, c'est la journée particulière de Didier Fassin. En 2002, vous rencontriez Poulenc, une jeune femme sud-africaine malade du sida. La confiance qu'elle vous a accordée était au regard de l'attention que vous avez accordée à sa parole, Didier Fassin. Accorder de l'importance à la parole de chacun pour accorder de l'importance à leur vie. C'est ce que vous avez voulu faire, encore une fois, Didier Fassin, en travaillant sur la mort d'Angelo, un homme de 37 ans qui appartenait à la communauté des gens du voyage et qui a été abattu par le GIGN le 30 mars 2017 dans la maison de ses parents, auquel il rendait visite.
C'est dans cette ferme au sud de Blois que le drame s'est déroulé. Les gendarmes de la section de recherche de Poitiers, épaulés par des membres du GIGN de Tours, investissent les lieux et interpellent plusieurs membres de la famille du jeune gitan. Ce dernier se trouve dans une petite dépendance, plongée dans l'obscurité. Les militaires cherchent à le neutraliser dans un premier temps, mais l'individu va rapidement riposter.
Il s'est, avec le couteau dont il était porteur, rué sur un gendarme, tentant manifestement de lui porter des coups au niveau de la région du haut du visage, du cou. Et c'est dans ces conditions qu'il y a eu l'usage d'une arme par un gendarme, dans un premier temps, et puis d'un second gendarme, ce qui a permis effectivement de neutraliser M. Angelo Caran, qui ensuite est tombé à terre.
Une version contestée par un des membres de la famille de la victime.
Quand ils sont rentrés, ils n'ont même pas su si c'était c'était la personne qui cherchait ou quoi. Ils ont directement tiré.
Il n'y a pas eu de sommation ?
Il n'y a rien eu du tout. Ils ont directement tiré.
Votre frère, en fait, se cachait, c'est ça, des forces de l'ordre, mais il n'était pas armé, il n'avait rien en sa possession.
Mais il n'était pas armé, c'est pas un homme dangereux, voilà.
La victime était incarcérée au centre de détention de Vivonne, au sud de Poitiers. En septembre dernier, il avait profité d'une permission pour s'échapper. L'homme était considéré comme potentiellement dangereux.
Didier Fassin, peut-être que vous souhaitez déjà réagir sur cette archive INA du 31 mars 2017. En tout cas, au début de cette archive, on entend exactement mot pour mot la version du GIGN sur ce qui s'est passé ce jour-là.
Alors effectivement, il y a deux versions qui sont très incompatibles. Eh bien, c'est la version du GIGN qui a été retenue. Et celle de la famille a été totalement négligée. Alors, il est tout de même assez étrange, et c'est ça qui avait attiré mon attention sur la plausibilité du récit des gendarmes, qu'un jeune homme avec un canif se jette sur 5 gendarmes lourdement harnachés avec des casques, des gilets pare-balles, des pistolets mitrailleurs, des grenades, des hommes super entraînés. Hein, c'est l'élite de la gendarmerie. Et donc, qu'il ait ensuite résisté à des tirs de taser qui étaient censés, par plusieurs dizaines de milliers de volts, le contenir. Cette histoire paraît d'abord implausible, et donc ce que j'ai essayé, après avoir rencontré la famille, après avoir lu les procès-verbaux, après avoir parlé avec les différents magistrats, eh bien, c'est de réaliser une contre-enquête, c'est-à-dire de m'intéresser d'abord aux différentes versions, en respectant le fait qu'il y avait des versions différentes, ce que la justice, à mon sens, n'avait pas fait. Et donc, je raconte du point de vue de chacun des acteurs ce qui s'est passé. Et puis ensuite, je mène ma propre enquête en m'appuyant à la fois sur les contradictions dans les auditions des différents gendarmes, dans les erreurs qui ont été faites dans la restitution aussi bien de l'autopsie que de la balistique. Et puis finalement, en essayant de reconstituer ce qu'avait pu être cette journée, et avec une version qui est évidemment très différente de celle qui a été produite par la justice et qui a conduit au non-lieu. Aujourd'hui, cette affaire est devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Alors cette histoire ne relève pas d'un dysfonctionnement de la justice, mais de son fonctionnement normal, dites-vous. Et la question que vous posez, c'est est-ce que la parole d'un marginal vaut autant que celle d'un gendarme ? C'est ça qui se pose en sous-texte.
Bien sûr, on sait de toute façon que les magistrats accordent toujours plus d'importance et plus de crédibilité à la parole de forces de l'ordre, de gendarmes ou de policiers, qui sont assermentés, bien entendu, qu'à celle des simples particuliers, pourrait-on dire, en l'occurrence, a fortiori, lorsqu'il s'agit de gens du voyage. De plus, les magistrats travaillent avec les policiers et les gendarmes, ont besoin d'eux, donc il y a des affinités qui se construisent, qui sont bien compréhensibles d'un point de vue sociologique. Et donc, c'est à travers l'histoire singulière d'Angelo, dont j'essaie de donner des moments de la vie aussi pour lui rendre un peu de la dignité. Il n'était pas simplement un gitan, comme dit le journaliste, il était un voyageur, il était quelqu'un qui appartenait à la communauté des gens du voyage. Ce que j'essaye, c'est de donner une généralité à cette situation, en montrant comment se produisent les vérités dans la justice et comment aussi se construisent les mensonges lorsqu'il s'agit de forces de l'ordre.
Mais c'est aussi une question de dignité. Là encore, vous avez voulu rendre de la dignité à cet homme, Angelo, et à faire que sa vie ait du sens.
À cet homme et à sa famille qui, au fond, non seulement, bien sûr, est profondément affectée par la mort d'un fils ou d'un frère, mais qui est révoltée par le manque d'attention qui était prêté à leurs paroles, et puis à ce qui, pour eux, ne rend pas justice et ne dit pas la vérité sur ce qui s'est passé.
journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Didier Fassin, c'est un passage obligé de cette émission de revenir sur certains événements de l'année de votre journée particulière. Mais avant cela, toujours, nous faisons un petit tour par le hit parade de cette époque-là pour un peu nous mettre dans l'air du temps. Et en 2002, le groupe Indochine chantait ça.
J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi.
Alors, je vous écoute, est-ce que vous vous souvenez de cette musique, ou pas du tout?
Je m'en souviens, mais je peux pas dire que c'est l'époque où j'écoutais beaucoup de musique et où je dansais sur des sons. Donc voilà, c'est une évocation faible, je dirais.
Didier Fassin, l'année 2002 m'est apparue comme une sorte de résumé du travail que vous avez fourni ces dernières années sur la place et le sens de la punition dans nos sociétés contemporaines. En août et septembre 2002, l'Assemblée nationale votait les lois Perben qui autorisaient la création d'établissements pénitentiaires pour mineurs et le renforcement des sanctions contre les mineurs. Ces lois réformaient donc de fait l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs.
D'un enfant, on peut faire un prisonnier. Et depuis quelques années, le nombre des enfants condamnés s'est aggravé du fait de l'occupation dans des proportions effarantes. L'absence d'un père et d'une mère, cette sorte d'abandon à lui-même, ont fait trop souvent d'un enfant un possible criminel. Ces spectacles des rues, vous les connaissez. Sans surveillance familiale, ceux-ci ont appris à bouder l'école, ils errent. Ils jouent, mais ce n'est plus bien souvent à des jeux d'enfants. Enfants perdus de la rue, enfants égarés de la vie, la rue trop pleine, la vie trop vide, les a vieillis. Ils ont déjà connu le commerce, et dans ce qu'il a de plus dégradant. Ils ont déjà connu l'argent et dans ce qu'il a de plus facile. Et cette démoralisation les a préparés, formés, désignés pour cette porte un jour. Mais cette porte ne mènera plus à des prisons. Le banc d'enfants est mort. Comme à Saint-Maurice, dans ce centre qui pourra servir d'exemple aux autres, on ne parle plus de châtiment mais de rééducation. Saint-Maurice est le résultat des récentes mesures qui ont changé l'orientation du problème de l'enfance délinquante. Ici, pas de barreaux. Le ciel, la terre, le vent. C'est dans cette liberté que par le travail, l'éducation, l'instruction, on essaie de rendre aux jeunes esprits troublés les qualités d'un enfant qui pourra devenir un homme.
C'est une archive de 1945, vous imaginez bien, Didier Fassin. En 2002, donc, ces lois Perben remettent en cause l'idée même de la justice des mineurs qui devait avant tout passer par des mesures éducatives.
Oui, alors cette évolution de la justice des mineurs est un signe d'une évolution plus large, oui, de ce qu'on peut appeler le moment punitif qui caractérise les sociétés contemporaines depuis environ un demi-siècle, qui a conduit, alors même que dans la plupart des pays, dont la France, la criminalité diminuait, a conduit donc à une augmentation de la population carcérale de plus de deux fois. Et tout simplement, il s'agit d'une augmentation de la sévérité qui concerne, d'une part, la pénalisation de délits qui jusqu'alors ne l'étaient pas et l'allongement des peines pour ceux qui l'étaient.
Et aussi, vous parlez de jouissance du châtiment.
Alors effectivement, si on veut avoir une analyse plus profonde de ce qui se joue à travers cette sévérité de la punition, et du reste ce qu'on voit dans la manière, et j'ai pu l'observer, dans la manière dont des policiers vont mettre mal des menottes, dont des juges vont humilier en cour de justice les prévenus, dont on va donner une douche à un homme en prison tout en la refusant à un autre. Donc tous ces gestes-là sont des signes qu'il y a quelque chose que le sociologue Émile Durkheim et surtout le philosophe Friedrich Nietzsche ont montré qu'il s'agissait de d'une forme de cruauté et donc qui s'accompagnait d'une jouissance de la punition. Et je crois que c'est pas simplement ces agents-là, c'est toute la société qui, au fond, se réjouit lorsque une personne qui a commis un délit ou un crime est punie. Et il n'y a jamais assez de punition dans nos sociétés, au moins depuis plusieurs décennies. Et on peut espérer que cette évolution change. Elle a commencé à le faire à l'occasion de l'épidémie de Covid.
Didier Fassin, vous vous êtes aussi interrogé sur l'inégalité des peines et des traitements en prison. Et là encore, l'année 2002 fait écho à votre questionnement, puisqu'en septembre 2002, Maurice Papon était libéré pour des raisons médicales, libéré de prison pour des raisons médicales par la Cour d'appel de Paris, alors qu'il était condamné pour complicité de crimes contre l'humanité concernant des actes d'arrestation et de séquestration lors de l'organisation de la déportation des Juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy. Là aussi, on retrouve votre travail. On enferme les mineurs, on libère Papon, en fait. C'est ça que je voulais vous dire.
Oui, et même, on peut dire de façon encore plus précise qu'on libère, au fond, très peu de gens qui sont très malades lorsqu'ils appartiennent à des catégories populaires et très souvent, du reste, des personnes qui appartiennent également à des minorités ethno-raciales. Ces personnes, lorsqu'elles sont malades, n'ont pas généralement la chance de Maurice Papon que vous venez d'évoquer.
Alors Didier Fassin, vous l'avez dit en début d'émission, vous avez enquêté au Sénégal, dans des communautés amérindiennes en Équateur, dans les townships d'Afrique du Sud, mais aussi à la BAC, dans une maison d'arrêt. Vos travaux ont porté sur les rituels de fécondité, sur des programmes d'assistance aux personnes démunies, des opérations humanitaires dans les zones de conflit. Vous le dites vous-même, l'anthropologie ne se caractérise ni par ses terrains, ni par ses sujets. Alors c'est quoi être anthropologue, Didier Fassin, et quel regard surtout porte l'anthropologue sur le monde? Quel est votre regard sur le monde? Vous dites des choses magnifiques dans votre leçon inaugurale au Collège de France là-dessus.
Plusieurs décennies, au début de l'anthropologie, on considérait que ce qui la caractérisait, ce qui la différenciait notamment de la sociologie, c'est qu'elle travaillait sur des terrains lointains, dans des sociétés qu'on appelait parfois sauvages, qu'on appelle plutôt, d'un terme moins brutal, traditionnel. Et puis, ensuite, on a bien sûr rejeté cette différenciation et on a plutôt insisté sur les objets de l'anthropologie, et notamment sur le fait qu'elle pouvait étudier des rituels, ce que j'ai fait aussi, des savoirs de thérapeute, par exemple. Et ni l'une ni l'autre de ces définitions ne m'a paru satisfaisante, et je crois que ce qui peut-être est le trait le plus marquant de l'anthropologie, en tout cas tel que j'essaie de la pratiquer, c'est de penser le monde de façon différente, et y compris parce qu'on a affaire à ces sociétés qui ont des interprétations distinctes, des faits sociaux, et bien la possibilité de se dire que le monde tel qu'il est pourrait être autrement. C'est du reste une phrase qui vient non pas d'un anthropologue, mais d'un grand écrivain, Robert Musil, dans L'homme sans qualité. C'est ainsi qu'il le définit. Il pense toujours le monde comme il pourrait être autrement. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est très profond, puisque d'une part, il va contre l'inéluctabilité de ce que nous voyons et montre qu'il y a une forme d'arbitraire, mais avec bien sûr des implications politiques, puisque si le monde tel que nous le connaissons et qui nous paraît aller de soi est comme il est, il aurait pu être autrement
Et donc, il pourrait à nouveau être autrement. Et je crois que ça, que l'anthropologie, de ce point de vue, a des implications non seulement intellectuelles et théoriques, mais également politiques.
Didier Fassin, nous le disions en début d'émission, vous avez été médecin avant de devenir anthropologue, médecin spécialiste des maladies infectieuses. C'est ça, au début de l'épidémie du sida. Je ne me trompe pas.
J'étais interniste, c'est-à-dire au fond un généraliste à l'hôpital, et je me suis spécialisé dans les maladies infectieuses. Et il se trouve qu'effectivement, c'était le moment du début de l'épidémie de sida en France, aux États-Unis, en Afrique.
Est-ce que c'est vrai que vous étiez médecin de garde quand Michel Foucault a été admis à l'hôpital à la fin de sa vie?
C'est effectivement par une simple coïncidence, puisque j'étais l'infectiologue de garde, que j'ai rencontré lors de sa dernière hospitalisation Michel Foucault, que j'ai parlé quelques instants avec lui, que j'ai été très très frappé par à la fois sa sérénité et sa modestie. Et c'est un souvenir qui m'a profondément marqué.
Je vous propose de l'écouter.
Je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est pour m'en aller, moi, ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir le matin, sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais. Il sera toujours là où je suis. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir. Visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener. À travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné.
Très belle archive de Michel Foucault sur le corps utopique. Alors pourquoi vous parlez de Foucault, Didier Fassin? C'est parce que Foucault disait que les sciences sociales doivent avoir le courage de la vérité. Et ça a d'ailleurs été le thème de son dernier cours au Collège de France. Et ce courage peut-être nous aider et nous donner la volonté d'agir. Comment agir, Didier Fassin? Est-ce qu'il faut qu'on ait le courage de la vérité? Est-ce que vous allez nous aider, vous, avec les sciences sociales, à agir?
Je me souviens d'un temps où, lorsque j'écrivais ma thèse, par exemple, ou d'autres choses plus tard, j'ouvrais à n'importe quelle page des livres de Michel Foucault, et j'en lisais comme ça quelques paragraphes pour me mettre en route, c'est dire que au fond, tout autant que ce qu'il dit, c'est la manière dont il le dit, tout autant que ce qu'il écrit, c'est la façon dont il amène la pensée, dont il va à contresens de ce qui serait très souvent l'évidence. Et de ce point de vue, effectivement, je crois qu'il y a une très grande beauté et une signification très forte à ce que son dernier cours, ses dernières leçons au Collège de France étaient données évidemment à cause de sa mort tragique, étaient données sur le courage de la vérité. Et je crois que c'est une leçon pour nous tous qui faisons des sciences sociales, mais bien sûr au-delà. Peut-être y a-t-il là quelque chose qui devrait nous pousser au-delà d'une certaine autocensure que les sciences sociales, les chercheurs en sciences sociales peuvent avoir dans le choix de leurs travaux, le développement de leurs théories. Et ce courage de la vérité, au fond, c'est une leçon, alors là, au sens non pas académique du Collège de France, mais une leçon de vie qu'il nous donne.
Merci Didier Fassin.
Merci à vous.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Votre leçon inaugurale au Collège de France est publiée aux éditions Fayard. Vos autres livres, enfin La mort d'un voyageur, donc sur Angelo, et Punir, sont publiés aux éditions du Seuil. En tout cas, toute votre bibliographie sera sur le site internet de l'émission Une journée particulière. Voilà, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combe, programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et à la technique aujourd'hui Philippe Duclos. Passez un bon week-end. Tout de suite après le flash, ce sera Vincent Josse et le grand atelier de Robert Bobert.